La Slovaquie a confirmé hier être prête à accueillir des discussions de paix sur l'Ukraine. Ce dialogue devrait avoir lieu avec la participation de la Russie, selon le ministère slovaque des Affaires étrangères. Vladimir Poutine avait jugé acceptable que le pays devienne une plateforme de dialogue. Le premier ministre slovaque Robert Fico est resté proche du Kremlin. Il a rencontré le président russe à Moscou dimanche passé, ce qui a provoqué la colère de Kiev. Les députés sud-coréens ont destitué hier le président par intérim, Han Duk-soo. Les parlementaires l'accusent d'avoir participé à la tentative d'instauration de la loi martiale le 3 décembre dernier, une tentative initiée par le président Yoon Suk-yeol, lui-même destitué le 14 décembre. Dans le nord de la bande de Gaza, le dernier grand hôpital opérationnel est désormais hors service après un raid israélien. C'est ce qu'a affirmé hier l'Organisation mondiale de la santé. Selon elle, 25 patients dans un état critique se trouveraient dans l'établissement. Des services hospitaliers clés ont été incendiés, toujours selon l'OMS. L'armée israélienne avait indiqué le même jour avoir lancé une opération contre des combattants du Hamas près de cet hôpital. Le crash de l'avion de ligne d'Azerbaïdjan Airlines est dû à une interférence externe, selon les conclusions préliminaires de l'enquête rendue publique par la compagnie aérienne hier. Des experts et des médias occidentaux privilégient de leur côté la piste d'un missile anti-aérien russe. 38 personnes sont mortes dans ce drame. Survenu mercredi au Kazakhstan, le vol avait pour destination la Tchétchénie en Russie. En Suisse, le tribunal fédéral a accepté hier le recours d'un ancien combattant suisse de l'État islamique détenu en Syrie. Le département fédéral des affaires étrangères va devoir réexaminer sa demande de rapatriement. Cet homme âgé de 30 ans dit craindre pour sa vie. Météo, du brouillard ou des stratus cette nuit et ce matin sur le plateau. Un ciel dégagé dans les autres régions. Il fera au minimum moins 2 degrés et jusqu'à 4 degrés sur le plateau.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Avec la RTS, voyageons au cœur de l'émotion. La musique fait partie de notre vie et en rythme souvent les moments importants. Claire Mudry part à la rencontre de 6 personnalités pour passer en revue les morceaux qui les ont marqués dans leur enfance, leur vie professionnelle ou encore leurs relations. À travers ces notes se dessinent des parcours de vie passionnants. Une vie en musique, c'est les lundis, mercredis et jeudis du 23 décembre au 2 janvier à 19h sur RTS Première et sur l'application Play RTS. Du son, de la radio, la nuit sur RTS Première. CQFD.
Dans l'intimité des arbres, c'est la série qu'on vous aura proposée toute cette semaine. L'intimité des arbres qui nous aura permis d'évoquer leur peau, leur bourrelet pour se protéger ou encore leur sensibilité. Et ce matin, pour notre dernier épisode, leurs racines. Ensuite, un sujet sexe, le sexe au fond des abysses. Ça promet, on va suivre grâce à Laurence Roidevaux un drôle de poisson. Il est pas très beau, on va pas se le cacher. Ce poisson, c'est la baudroie. À quoi ressemble sa sexualité? On aura décidément tout fait dans cette émission. Réponse dans un quart d'heure. Et enfin, on évoquera notre motivation et notre capacité plus ou moins importante à procrastiner, c'est-à-dire à remettre à demain ce qu'on devrait plutôt faire aujourd'hui. Mais que se passe-t-il dans notre cerveau quand on manque de motivation et qu'on a tendance justement à procrastiner? Réponse dans une demi-heure. Voilà pour le programme. Bonjour, bienvenue à vous.
CQFD, le magazine scientifique et médical de RTS Première, Stéphane Gabiou.
Dans l'intimité des arbres, c'est notre série donc de la semaine en compagnie de la biologiste Catherine Laine qui leur dédie un livre à tous ces arbres aux formes insolites, aux troncs doubles, triples, en fourche ou vissés, emplis de loupes. Bref, tout un monde finalement arboricole étrange à observer pour comprendre toutes les interactions multiples et les interactions variées du monde vivant. Dans notre dernier épisode, on va se plonger sous terre au niveau des racines. Oui, il fallait passer à un moment donné par là, Cécile.
Bien sûr, parce que déjà au fil de la découverte de ces bizarres, on a bien compris compris que l'arbre parfait au tronc rectiligne et sans défaut, c'est une vue de l'esprit. Le vivant n'est qu'accident, rafistolage, partage et résilience. Et surtout, l'arbre nous plonge dans un monde d'interdépendance entre espèces. Bienvenue dans le collectif et l'échange en compagnie de Catherine Laine dans la campagne auvergnate.
On va remonter vers la haie, vous serez moins mouillé. Donc ça, c'est ce que j'appelle des belles haies. Vous savez, la haie bocagère. Ici, on a des arbres, mais on a aussi des arbustes, des genêts qui sont en fleurs.
Ouais, c'est magnifique.
On va trouver des pruneliers.
Ouais, ça, c'est des merisiers.
Donc, on est au pied d'une haie, avec des merisiers. D'ailleurs, c'est souvent là qu'on va les trouver. On a souvent planté des merisiers dans les haies. Et on voit sur le talus, effectivement, apparaître ici, sur le sol, des axes de bois, qui sont les racines, en fait, qui affleurent.
Elles ne sont pas très profondes.
On pense souvent que les racines d'un arbre s'enfoncent profondément dans le sol, mais pas du tout. La quasi-totalité des arbres ont des racines horizontales. Donc, en fait, les racines, elles colonisent le sol dans moins d'un mètre de profondeur, un mètre cinquante. Là, ce que vous voyez ici, c'est les racines conductrices, hein, c'est les pipelines qui permettent à l'eau qui est puisée par les pointes de remonter jusqu'au tronc. Donc ça, c'est de la canalisation. Et l'entrée, la porte d'entrée, les bouches sont tout au bout du réseau, très très fines petites racines, sans bois. C'est le seul endroit où il n'y a pas de bois dans les racines, c'est les pointes. Ces pointes, elles se répandent à peu près dans les 30 premiers centimètres du sol. C'est-à-dire qu'un arbre, au contraire, il va beaucoup étaler ses racines le plus loin possible pour aller explorer le sol dans les 30 premiers centimètres le plus loin possible.
Et là, ces canalisations de racines qui sont à la surface, elles se sont un peu fusionnées.
Alors, la fusion, donc ce qu'on appelle l'anastomose, c'est le fait que deux axes poussent très proches l'un de l'autre. Et donc les racines, c'est très vrai, parce que le maître mot là dans le sous-sol, c'est promiscuité. Hein. Parce qu'il y a du monde, c'est tout serré, donc elles poussent les unes contre les autres. Et comme elles s'épaississent de bois chaque année, comme le tronc, comme les branches, elles grossissent en circonférence, en épaisseur. Il y a un moment, si elles sont côte à côte, elles vont finir par se gêner. Elles s'appuient l'une contre l'autre. Donc les écorces s'abrasent, et à un moment, comme sous les écorces se trouve le fameux cambium, qui est le producteur de bois et de la petite pellicule de vie périphérique, ces cambiums, à un moment, vont se toucher, et s'ils se touchent, ils fusionnent. À partir du moment où ils ont fusionné, il y a un cambium commun qui se met à fabriquer un bois commun aux deux axes, et donc plus qu'un seul axe, si vous voulez.
Vu que c'était des canalisations, il y a une plus grosse canalisation.
Alors en fait, donc quand je parle canalisation, c'est parce que c'est le bois, en fait, et c'est un tissu qui est fait de milliers, millions de petits tuyaux, qu'on appelle des vaisseaux. De chaque année, le cerne de bois contient de nouveaux vaisseaux et des fibres qui donnent de la solidité. Et lorsque les bois fusionnent, comme ça, lorsque les cambiums fusionnent et font un bois commun, simplement, le cerne de bois devient commun avec tous les vaisseaux pour ce nouvel axe formé de la fusion des deux précédents. D'accord. Comme elles affleurent à la surface, elles sont donc au contact de l'air, elles ont peut-être été abîmées aussi par le bétail qui est passé. On voit qu'elles ont vécu, quoi, effectivement. Ouais. Très souvent, on va délimiter un périmètre autour du tronc pour empêcher les gens de venir piétiner le sol. Parce que plus on piétine le sol, plus les racines se tassent. Et un sol piétiné aussi, c'est un sol qui est plus asphyxiant. Et les racines, ça respire. Donc il faut qu'il y ait des circulations d'air dans le sol. Ça peut être vrai ici, hein, le bétail qui se rassemble l'été sous les arbres pour avoir de l'ombre et qui va, par son poids, tasser la terre. Donc c'est des racines qui sont un peu plus à l'épreuve qu'un arbre qui serait plus tranquille ailleurs.
Et autour de ces racines, il y a plein de champignons. Enfin, alors, ça, c'est aussi les autres qui habitent.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Au bout de ce réseau racinaire, au niveau du chevelu, au niveau des pointes racinaires, c'est là, je vous ai dit, que l'eau rentre, que l'eau est pompée par l'arbre. En fait, il ne fait pas ça seul. Il est aidé par des champignons du sol, les champignons mycorhiziens, qui viennent en fait emballer les petites pointes racinaires comme une chaussette le ferait autour d'un pied. Vous voyez ? Donc les filaments emballent et protège finalement cette petite pointe racinaire, mais surtout de cette chaussette s'échappent des filaments de champignons dans le sol. Et c'est le champignon en fait qui prospecte pour l'arbre. C'est lui qui va puiser l'eau, les éléments minéraux, et les donner à l'arbre hein, dans la petite chaussette. Parce qu'à l'intérieur de la chaussette, il y a aussi des filaments de champignons qui vont rentrer dans la racine, dans la pointe racinaire, qui vont venir s'accoler aux cellules de la racine. Donc la véritable surface d'échange de l'arbre, c'est pas tellement la pointe racinaire, mais c'est le réseau de filaments de champignons et de cellules racinaires à l'intérieur de la pointe qui sont côte à côte. Et là, il y a les échanges d'eau et de minéraux, là, pour le champignon qui donne ça à l'arbre. Et en contrepartie, l'arbre qui lui est vert, qui est capable de fabriquer de la matière organique carbonée, fabrique des sucres. Et ces sucres sont donnés à ces champignons mycorhiziens. Ça va jusqu'à un tiers de sa production de sucre à cet arbre qui est dévolu à ses alliés, à ses champignons. Donc il y en a un qui est spécialisé dans la nutrition minérale, c'est le champignon. Et l'arbre est spécialisé dans la nutrition carbonée. Ils se complètent, si vous voulez. Le champignon ne peut pas vivre sans l'arbre.
Et est-ce qu'on sait si les champignons proches des pointes racinaires sont spécifiques de tel arbre ou ils peuvent nourrir tout le monde ?
C'est une bonne question. Donc en fait, on a... Alors c'est un monde foisonnant, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il fut un temps où on pensait qu'il y avait un champignon mycorhizien par arbre. Pas du tout. Un arbre peut accueillir plus de 100 champignons différents mycorhiziens. Et d'autre part, un champignon, une souche de champignon, on va la retrouver sur cet arbre-là, puis vous allez la retrouver peut-être 30 mètres plus loin sur l'arbre là-bas. Ça veut dire que ce même champignon qui se répand dans le sol, il est capable d'aller mycorhiser un autre arbre. Et il y a des souches de champignons généralistes qui vont mycorhiser tous les arbres, puis il y en a qui sont un petit peu plus spécialisés. On pense par exemple à la truffe, qu'on va trouver plutôt au pied des chênes. Pour les chasseurs de champignons, ils savent bien où ils doivent aller chercher leur morille. En général, ils vont pas les chercher n'importe où. Ils vont chercher sous certaines essences. Donc on a des niveaux de spécificité qui varient dans ce monde de champignons. Mais ce que je voulais souligner, c'est que dans le sol, en fait, vous avez un fatras de filaments de champignons invraisemblables qui vivent en association symbiotique avec les racines des arbres et qui finalement connectent physiquement ces arbres par ce réseau mycorhizien. Attention, pour l'instant, on sait qu'elle existe, cette connexion physique, mais on ne sait pas si véritablement des substances s'échangent dans ce réseau, si ça passe vraiment par ces filaments de champignons ou si des substances sont simplement émises dans le sol. Et on est vraiment sur un front de science. On est encore en train de chercher, en train d'identifier ces substances. Est-ce que vraiment dans la nature, ça se passe comme on le voit dans un laboratoire, dans un pot entre deux arbres ?
On ne sait pas encore si par exemple celui, par exemple ça c'est un merisier oui. aussi en face. Ouais.
C'est un merisier.
Imaginons que, je sais pas, il soit malade, qu'il s'envoie des infos, on ne sait pas. Encore.
Non, ça c'est du rêve. C'est de la science-fiction. Dans science-fiction, il y a science. Ça veut dire que la science-fiction, en général, s'inspire de principes scientifiques démontrés. Et la fiction ajoute de l'imaginaire et du roman à cela. J'adore la science-fiction, mais ce n'est pas de la science. Nous sommes en train de travailler, laissez-nous le temps.
Laissez-nous le temps, oui, parce que j'imagine qu'effectivement faire ces recherches sur la communication entre les arbres, ça demande du temps. Hein.
Oui, déjà en laboratoire, hein, avec des plantes modèles, il n'est pas évident de comprendre les interactions. Eh bien, ça se complexifie encore sur le terrain. C'est infini ce qu'il y a à découvrir dans toutes ces bizarreries naturelles. Allez, on y retourne auprès de notre arbre.
Les branches basses, elles vont manquer de lumière à un moment. Donc, et puis peut-être elles seront moins alimentées, donc elles vont se nécroser, mais naturellement. Et dans ces branches... Ce qu'on n'a pas encore expliqué non plus, c'est que l'arbre, à l'intérieur de ses tissus, il abrite des tas d'autres êtres, donc des champignons, des bactéries, donc tout un microbiote. Et dans ces branches, il y a des champignons spécialisés dans l'élagage. Donc je les appelle des mini-bûcherons. Ces champignons qui vont se nourrir de ce bois en train de se nécroser, ils vont donc participer à accélérer la mort de ces branches. Et à la base de la branche, l'arbre va construire assez vite un bourrelet de recouvrement, une zone qui va permettre de fermer la branche et elle va tomber toute seule. Et ça laissera sur le tronc des traces qui sont comme des yeux, en fait. On voit la trace de la branche et souvent, il y a comme une paupière au-dessus, la ride de la branche lorsqu'elle était en place.
Mais donc, s'il n'y avait pas les champignons et ça ne serait pas nécrosé, la branche ne tomberait pas.
Exactement. Et donc, par exemple, vous avez, certainement chez vous, il y en a aussi, des essences, souvent de conifères, qu'on a importées d'Amérique du Nord, par exemple, qu'on est venu planter dans des environnements qui ne sont pas leurs environnements d'origine, et où ils n'ont pas trouvé leurs alliés fongiques. Et donc, les branches basses ne tombent pas, ne s'auto-élaguent pas. Et vous avez comme ça des plantations, par exemple, d'épicéas ou d'autres conifères, dont les branches basses sont toujours en place, et c'est parfaitement impénétrable. Et ça, c'est pas bon hein, pour le forestier, il n'aime pas ça. Hein, parce que les branches basses qui ne s'auto-élaguent pas, ça fait des tas de nœuds dans le bois. Ça peut déprécier le bois. Parce qu'après, le problème des bisarbres, c'est qu'il y en a un peu partout.
Oh, puis là, il y a un gros truc sur le côté, là.
Celui qui a les boules.
Dans le... Là, on est devant toujours un frêne.
Ouais, hein. Ouais. Hein? Donc là, ce qui nous intéresse, c'est ça.
Donc il a comme une excroissance.
Voilà. Il a une grosse boule là à la base de son tronc. D'ailleurs, elle pourrait se trouver plus haut. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une loupe. Ça n'a aucune importance pour l'arbre. C'est pas, il est pas malade.
C'est pas une tumeur.
Voilà.
Ça ressemble un peu à ça.
Ça ressemble à une tumeur. Et c'est vrai que c'est inquiétant quand on voit ça. Encore une fois, vous voyez, on fait de l'anthropomorphisme parce qu'on projette sur l'arbre nos propres maux, nos propres douleurs, en se disant, bah là, il est en train de mourir d'un cancer. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est une prolifération de bois. Le bois est produit par le cambium. C'est donc le cambium qui devient fou. À un endroit, le cambium se met à proliférer et à fabriquer un bois qui n'est pas bien rangé, comme il doit le faire normalement.
Pourquoi?
Donc, c'est souvent, pour les loupes, un accident de la circulation. Comme le bois est plein de tuyaux qui permettent la montée de l'eau des racines jusqu'aux feuilles, si quelques-uns de ces tuyaux sont bouchés, peut-être par une blessure, une piqûre d'insecte, un accident de circulation, hein, ça peut provoquer la prolifération du cambium qui est juste à côté. Donc ça, c'est pas beaucoup aimé des forestiers qui veulent récupérer des belles planches bien droites. Par contre... C'est très apprécié des ébénistes. Dans ces loupes, les bois sont très enchevêtrés, les fibres sont très enchevêtrées. Ça fait des bois magnifiques à la coupe. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut venir avec sa tronçonneuse et couper les loupes et les broussins. Non, attendons que l'arbre soit tombé au sol pour récupérer ses trésors. Mais on le laisse avec ses excroissances vivre sa vie d'arbre.
C'était Catherine Laine qu'on aura donc entendu toute cette semaine. Elle signe, vous avez dit, Bisarbre aux éditions Belin. Elle nous aura accompagné, voilà, dans cette balade au pays des arbres, ces êtres résilients et sensibles. C'est une série que nous proposait Cécile Guérin, réalisée par Isabelle Barthes. Et vous pouvez la réécouter, évidemment, en passant par Play RTS et par notre page rts.ch/CQFD. Dans un instant, on va parler de la sexualité des baudroies dans les profondeurs de nos océans.
CQFD sur RTS Première.
Capisce perché.
Le fribourgeois Muddy Monk et un chanteur italien qui s'appelle Giorgio Boy. Il chantait Tic Tac.
Enfant, enfant, préhistoire, la science et la guillotine. Santé mentale, la sexualité des poissons, station ornithologique, prévention. Les coups de cœur 2024 de CQFD.
Et vous voici, Laurence Froidevaux, pour votre coup de cœur 2024. Et un sujet étonnant sur la reproduction chez les baudroies, Laurence.
Oui, la reproduction chez ces poissons étranges. Hein. La baudroie des abysses, vous visualisez, Stéphane?
Ouais, c'est pas très beau, non?
Non, c'est pas très beau, mais c'est pas de ta faute. Poisson lanterne, vous savez, ils ont un petit lampadaire allumé au-dessus de la tête. C'est une créature vraiment de film d'épouvante, avec une bouche énorme, des dents en crochet, des gros yeux globuleux. Effectivement, c'est pas le genre de créature sur laquelle on a envie de tomber. Mais pas de risque, elle vit dans les grands fonds marins. Et ce poisson-là, qui est déjà quand même assez fascinant en soi, a fait l'objet d'une étude qui a été publiée au mois de mai cette année, une étude signée de l'université de Yale, publiée dans la revue Current Biology, et qui nous expliquait comment cette espèce, vivant dans l'obscurité la plus totale, trouvait malgré tout le moyen de se reproduire, parce que dans les abysses à 2000 mètres de profondeur, Madame Baudroie, puisqu'il s'agit d'elle, ne croule pas sous les invitations galantes.
D'accord. Ouais, Tinder, ça marche moyen, quoi.
Il n'y a en fait, pas beaucoup de dating.
Ouais, c'est ça, exactement. Alors, dites-nous, viens, comment se reproduit cette curieuse créature?
Eh bien, pour assurer la survie de l'espèce, Monsieur Baudroie, qui ne ressemble pas à Madame Baudroie, Monsieur Baudroie qui est beaucoup plus petit, environ 3 cm, alors que la femelle fait 20 cm, Monsieur Baudroie, donc, se fait tout petit, et quand il trouve la femelle de sa vie, il s'accroche à elle, par les dents. Ses organes régressent, il se nourrit directement par le sang de la femelle, qui circule à travers son corps à lui, comme en fait s'il était devenu un organe supplémentaire de Madame Baudroie. Il va y rester toute sa vie. Les plus vieilles femelles baudroie abyssales peuvent avoir 2 ou 3 mâles accrochés à l'arrière de leur corps. Et ces petits mâles accrochés, greffés, produisent les spermatozoïdes pour féconder les œufs qu'elles pondent. Wow. C'est original, n'est-ce pas?
Voilà, c'est pour ça que vous avez choisi ce sujet, j'imagine.
Alors j'ai trouvé ça effectivement amusant. Il y a cette créature qui est effectivement assez fascinante, qui a droit à l'amour et qui a le droit de se reproduire elle aussi. Et ça, je trouvais que c'était un clin d'œil rigolo aussi par rapport à la place des hommes dont on parle beaucoup aujourd'hui.
Oui.
Et puis par ailleurs, pour être un peu plus sérieux, ce sont des recherches qui font avancer la science, notamment sur les greffes de peau et les transplantations d'organes. C'est cela notamment que les chercheuses et chercheurs souhaitent comprendre en observant ces animaux et leur reproduction.
Et pour plus de détails, nous avions accueilli en mai dernier le biologiste Bruno Frédérich qui dirige le laboratoire d'écologie évolutive de l'université de Liège. La première question qu'on lui avait posé, vous et moi, Laurence, ensemble, c'est de savoir de quel baudroie on parle.
Oui, ici, c'est un groupe de poissons composé en fait, de plusieurs centaines d'espèces. Et on connaissait les baudroies. En fait, il y en a certaines qui vivent dans des habitats relativement peu profonds. Ils sont en fait taris sur le sol. Et alors, ils ont une particularité, ils utilisent leur nageoire pectorale pour se déplacer un peu comme des bras. Et alors, il y a d'autres baudroies qui sont présent dans les fonds abyssaux, qu'on le retrouve dans des zones à plus de 1000 mètres de profondeur. Il faut savoir aussi que ces baudroies, on les appelle également des poissons pêcheurs. Pourquoi ? Parce que leur nageoire dorsale, elle est modifiée. Elles ont un rayon en fait, qui est transformé en une sorte de petit leurre qu'ils agitent. Et comme ça, ça mime une petite proie et ces baudroies chassent à l'affût et englobent en fait, les proies qu'ils peuvent attirer avec ce petit leurre.
Et pourquoi ces baudroies de profondeur donc, sont un objet d'étude captivant pour vous, les équipes de recherche?
En fait, durant cette étude, on connaissait donc ces baudroies qui étaient présents dans des habitats différents, mais on ne savait pas quand en fait, les baudroies avaient colonisé ces fonds abyssaux. Et je veux dire, durant cette étude, il révèle que ces baudroies ont migré d'un habitat relativement peu profond vers des habitats très profonds, donc au-delà de 700 000 mètres de profondeur, et ça s'est fait il y a environ entre 50 et 30 millions d'années, durant une période de réchauffement climatique.
Et qu'est-ce que ce mode de reproduction nous apprend de manière plus large, Bruno Frédérich?
Ici, en fait, ils mettent en évidence que cette colonisation vers les abysses, ça s'est accompagné de ce système de reproduction qui est très particulier, vous en avez parlé. Donc les mâles sont très très petits chez ces espèces abyssales. Et donc le seul objectif du mâle, c'est de trouver une femelle pour pouvoir s'y greffer. Et donc, il suffit des transformations que vous avez décrites. Mais nous, on formule l'hypothèse que ce type de reproduction est tout à fait adapté dans un environnement. Il faut imaginer, c'est le gros bleu. Enfin, je dirais, il fait tout noir. C'est un habitat qui est très, très vaste. Et ça aide, je dirais, à la survie de l'espèce. Parce qu'une fois que le mâle est greffé à la femelle, ben, quand la femelle va pondre, elle est sûre d'avoir directement un partenaire avec lui pour féconder, en fait, ses œufs.
Ouais, parce que c'est vrai que c'est un habitat qui est hostile, hein, d'être dans ces fonds abyssaux. C'est, on trouve pas un copain et une copine pour se reproduire très, très facilement.
Exactement.
Est-ce qu'on comprend comment mâles et femelles peuvent se reproduire et en quelque sorte fusionner et survivre? Parce que là, il y a un phénomène aussi qui est intéressant. Il n'y a pas de rejet non plus de la part de la femelle.
Non, c'est ça. Mais donc, ce qui est, je veux dire, la greffe, j'ai parlé de ça, en fait. En tout cas, d'attache du mâle sur la femelle. Donc, vous l'avez expliqué, c'est que le mâle est tout petit, il est vraiment très petit par rapport à la femelle. Et il faut vraiment se mettre en tête, c'est que le mâle, son seul objectif, c'est de trouver une femelle. D'ailleurs, il ne se nourrit pas. Et lui, il a un organe d'olfaction, donc qui reconnaît, en fait, des molécules qui sont relarguées par la femelle dans l'eau. Et lui, il est attiré par cela. Et dès qu'il trouve une femelle, il va venir la mordre sur la partie ventrale. Et alors, il va relarguer, en fait, il va produire des enzymes qui vont dissoudre à la fois ses mâchoires et les tissus de la femelle pour faire une greffe, en fait, pour venir se fusionner sur la femelle. Et ensuite, tous les organes du mâle vont disparaître petit à petit. Et il n'a resté, en fait, qu'une seule paire de gonades. C'est comme si vous aviez, en fait, une paire de testicules qui venaient se greffer, je veux dire, en dessous de la femelle. Et cela, dans l'étude, ils ont également démontré, avec des études du génome chez ces poissons, que cette greffe est possible, en fait, par une modification du système immunitaire de ces poissons.
Et c'est en cela, notamment, vous parlez de modification du système immunitaire, c'est en cela, notamment, que c'est intéressant pour de futures applications sur les humains, notamment par rapport aux greffes de peau, aux greffes d'organes.
Oui, donc si je me permets de vous rappeler, en fait, le système immunitaire, c'est donc qu'on a chez nous et chez d'autres animaux, c'est un système biologique qui est assez complexe et qui est constitué de différents éléments de reconnaissance et de défense qui discriminent le soi du non-soi. Et tout ça, ce système est basé sur des récepteurs moléculaires qui sont présents à la surface des cellules. Et il faut savoir que c'est ce système immunitaire qui nous permet de combattre différents types d'agents pathogènes tels que des virus, des bactéries et des parasites. Et c'est notamment, en fait, ce système immunitaire qui nous pose des problèmes lorsqu'on veut réaliser une greffe. Parce que quand vous faites la greffe, je veux dire, notre organisme pense que c'est quelque chose d'étranger et donc il veut s'en débarrasser. C'est pour ça que la greffe ne prend pas. Et ici, cette étude montre que chez ces baudroies, il y a certains gènes, en fait, qui ne sont régulés d'une manière différente et qui font que ces récepteurs moléculaires sont modifiés et donc permettent la greffe du mâle sur la femelle. Et on peut imaginer, sur des perspectives à plus long terme, que mieux comprendre ces mécanismes moléculaires, nous, on pourrait développer, en fait, certaines choses qui nous permettraient de modifier ces récepteurs moléculaires chez nous, qui permettraient de faciliter les greffes.
Merci pour ces précisions. Vous nous avez dit que ces observations nous enseignaient sur l'habitat des baudroies qui s'est modifié donc avec le temps, qui sont passés de récifs coralliens à des eaux beaucoup plus profondes. On a aussi compris comment cette espèce peut évoluer, se reproduire. Comment on fait pour observer ces baudroies qui vivent donc désormais dans des habitats extrêmement profonds? On peut aller les observer avec des caméras? On doit ratisser les fonds et les capturer? Comment on fait?
Maintenant, oui. Il faut savoir qu'avant, ça a commencé même fin du 19e, mais durant le 20e, il faut savoir qu'il y avait des expéditions scientifiques qui utilisaient des gros filets de fond pour aller draguer les fonds marins. Et alors, on récupérait des organismes qu'on a pu décrire. Et il y avait notamment des baudroins. Malheureusement, évidemment, quand on les remonte, tous ces organismes sont morts. On ne peut pas vraiment observer leur comportement ou comprendre leur écologie. Mais après, c'est milieu du 20e siècle, vers les années 50-60, on a développé, en fait, des sous-marins autonomes. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a le Batiscaf qui a été conçu dans les années 50. Et alors, l'apparition de ce genre de robots, en fait, qui sont raccordés je dirais, bateau par long câble, une sorte d'ombilic, nous permet d'aller observer en fait les gros fonds. Ouais. Il faut savoir même qu'il y a des petits sous-marins, vous pouvez aller à un ou deux scientifiques dedans et vous pouvez descendre à plus de 1000-2000 mètres de profondeur pour aller vraiment observer des choses.
Et vous l'avez déjà fait vous-même, Bruno Frédéric ?
Non, jamais, jamais. Je travaille dans les récifs coralliens, mais pas à des profondeurs comme celle-là.
Voilà, Bruno Frédéric, professeur à l'Université de Liège, biologiste. Il dirige le laboratoire d'écologie évolutive à l'Université justement de Liège. Et c'était donc votre coup de cœur 2024, ma chère Laurence Roidevaux. Et dans un instant, dans CQFD, on essaie de comprendre ce qu'est la motivation et comment une trop grande motivation peut nous faire perdre nos moyens. Tout de suite.
Si elle trotte les secondes, si je galope à moitié nu, à demi vécu l'hécatombe. Je me dis sous guettant le sombre, quel est le sens à première vue, découvrir mes catacombes. Tout seul dans l'arène, je suis le roi des ombres. Tout seul dans l'arène, je me suis perdu. Bravant la mer si profonde, goûtant le sel et l'amertume, mes idées noires se dévergondent. Élégant mon costume de plume, quoi qu'en craque la vertu, laissant mes entrailles en plein trip. Tout seul dans l'arène, je suis le roi des ombres. Tout seul dans l'arène, je me suis perdu. Je suis l'homme de ton âme, tu es l'homme de mon M. Je suis
Roi des ombres, c'était M.
CQFD, à réécouter sur l'application Play RTS.
Et tiens, on va parler de motivation à présent avec vous, Lucia Silig.
Motivation et de procrastination, parce qu'il y a deux études intéressantes qui sont sorties sur ces sujets ces derniers mois. Je sais pas vous, mais moi ça me parle, j'ai bien besoin qu'on m'explique deux, trois trucs dans ce domaine, et notamment pourquoi les choses qui me tiennent le plus à cœur sont celles que j'ai le plus de peine à faire ou que je remets systématiquement à plus tard.
Moi c'est l'inverse, c'est marrant. Ouais. Ah ouais, plus ça motive, plus j'ai envie de les faire tout de suite.
Mais... Ouais, c'est bizarre. Ah ouais. Mais vous, quand vous êtes sous pression, le stress ça a plutôt tendance à vous donner du peps, à améliorer vos performances ou au contraire à vous faire perdre vos moyens?
Non, moi je pense que ça me donne un bon stress quoi. Donc, plus
je crois que vous n'êtes juste pas encore assez stressé, Stéphane.
Ah bon,
vous êtes trop détendu parce qu'on sait depuis plus d'un siècle qu'il y a un lien entre la performance et la motivation. Ça s'appelle la loi de Yerkes-Dodson et maintenant une équipe de l'EPFL et de l'Université de Genève qui a publié ses travaux en octobre dans la revue Neuron a réussi à percer le mécanisme, à comprendre comment la motivation influence la performance au niveau neuronal. Alors j'ai demandé à Sami El-Boustani, professeur assistant au département de neurosciences fondamentales de la faculté de médecine de l'Uni de Genève, de nous expliquer tout ça et déjà en quoi consiste cette fameuse loi de Yerkes-Dodson.
C'est une loi qui a été proposée à l'époque par ces deux psychologues américains, Robert Kiax et John Dillingham Dodson, qui en fait, en faisant des expériences avec des souris, se sont rendu compte que dans des tâches comportementales où elles doivent prendre des décisions, ces décisions sont impactées par le degré de motivation ou la pression qu'elles subissent dans le contexte de cette tâche. Et en l'occurrence, sous une pression trop légère ou trop élevée, la performance dans ces tâches commence à diminuer. Donc ça, c'est un phénomène qui a été observé. Et ce qui a été assez intéressant aussi dans leur constat, c'est que ce point de rupture, où on s'éloigne d'un comportement optimal, dépend de la difficulté de la tâche. Donc pour des tâches extrêmement simples, évidemment, on arrive à bien performer, même sous haute motivation ou sous haute pression. Mais par contre, dès que la tâche devient difficile, ce point optimal, on va dire, devient de plus en plus sensible à la motivation.
Et est-ce qu'il y a des exemples de la vie de tous les jours, donc pas chez les souris, chez les êtres humains, qui illustrent cet effet de la motivation sur les performances ?
Alors oui, tout à fait, je pense qu'il y en a beaucoup, parce que cette loi s'applique à peu près à n'importe quel type de comportement, dans la mesure où l'enjeu est important et le temps de décision souvent est très court. Donc on va avoir par exemple dans le sport, dans des conditions de sport compétitifs, lorsqu'une décision doit être prise rapidement et que potentiellement l'enjeu c'est de perdre le match pour toute une équipe, en situation de guerre ou par exemple, je donne souvent cet exemple, en situation d'examen pour les étudiants, où encore une fois l'enjeu peut être important et le temps de décision est court, puisque généralement ces examens sont dans un temps défini.
Mais ça se traduit comment ? Par exemple, vous parliez du sport, est-ce qu'il y a des moments où les sportifs sont incapacités, où les soldats en temps de guerre, ils ont vraiment, je sais pas, leur capacité qui flanche ?
Alors c'est ça qui était intéressant dans cette loi, c'est qu'en fait elle s'applique à différents systèmes. Ça peut être une tâche dans laquelle une exécution motrice est le résultat de la performance ou la capacité à discriminer différentes stimulations. Donc en situation de guerre, typiquement, on va avoir les deux. On va devoir être capable de discerner correctement différentes stimulations et appliquer la bonne action, dans le sport aussi. Donc c'est vraiment très variable d'une tâche à une autre. Ce qui est commun, c'est que la nature de la performance, encore une fois, que ce soit exécuter une séquence motrice ou être capable de discerner des stimulations très proches, va être fortement impactée lorsque cette motivation est excessive, anormale.
Vous me parliez en préparant cette émission, par exemple, de vision floue ou d'effet tunnel.
Oui, alors exactement ça peut être une manifestation, typiquement au niveau perceptuel, où une forte pression peut potentiellement diminuer la capacité sensorielle. En fait, d'une certaine manière, elle l'augmente puisqu'on devient beaucoup plus sensible, mais au prix d'être moins capable de discerner des stimulations très proches. Donc voilà, ça peut donner lieu à une perte de résolution des systèmes sensoriels, ce qui se traduit en fait en une vision, une perception floue, par exemple. Ouais.
Quand vous dites concentré, ça veut dire qu'une vision tunnel, on verra pas ce qu'il y a autour, on verra qu'à un endroit ?
En l'occurrence, effectivement, donc la vision tunnel a lieu quand on est sous forte pression, typiquement avec grande dose d'adrénaline, où on va se centrer beaucoup plus sur l'aspect central de la vision et perdre un peu l'information qui se trouve dans la périphérie. Donc ça peut être une manifestation de ce phénomène, effectivement.
Ce que l'équipe de Sami El-Boustany a voulu comprendre, c'est comment la motivation influence les performances et en particulier, est-ce qu'elle agit au niveau de la compréhension qu'un individu a d'une tâche, sur ses capacités logiques en quelque sorte, ou est-ce que c'est vraiment sa perception du monde, les informations sensorielles qui se brouillent comme dans les exemples qu'on a donnés ?
Et alors, comment les scientifiques s'y sont-ils pris finalement pour élucider tout ça ?
L'équipe a travaillé sur un dispositif avec des souris qui sont très motivées parce qu'elles ont soif. Hein. On contrôle le rapport en eau quotidien pour contrôler leur degré de motivation à apprendre une tâche. En l'occurrence, faire la différence entre la stimulation de deux de leurs vibrisses, de leurs moustaches, qu'elles utilisent beaucoup pour explorer leur environnement.
Vous appelez ça des vibrisses, vous, les moustaches ?
C'est le vrai terme.
Vibrisses, que je connaissais pas. C'est-à-dire, donc du coup...
Eh bien, ça vous dit de vous mettre un instant dans la peau d'une souris, Stéphane ?
Dans la peau d'une souris. J'aurais préféré être un chat, c'est pour tout dire, mais pourquoi pas ? Ok, allons-y. Appelez-moi Mickey.
Bon, Mickey, oui. On va travailler sur la stimulation de tes moustaches. L'idée, c'est que tu réussis à apprendre un truc très simple.
Oh oui !
Quand je vais stimuler une de tes moustaches, tu vas aller lécher un petit tube et comme ça, tu obtiendras une récompense sous la forme d'une goutte d'eau. Tu vois le truc ?
Oh bah oui.
Oui, bah ça, c'est quand je stimule, mettons, ta moustache gauche.
Ouais.
Tandis que quand je te stimule l'autre moustache, la droite, si tu lèches le tube, Mickey, hein, non seulement il n'y aura pas d'eau, mais en plus, le système se bloque pendant 10 secondes. Et tu vas voir, ça va beaucoup, beaucoup te frustrer parce que tu as très soif et que tu veux pouvoir boire.
Très bien, je crois que j'ai bien compris. va, je faisais bien la souris, ça vous va ou...
Oui, vous faites très bien la souris. Et oui, Mickey, vous êtes une souris qui apprend vraiment très très vite. Hein. Mais ce n'est pas le cas de tes copines du labo. Les scientifiques, les vrais, pas moi, hein, ont été surpris par le temps étonnamment long, parfois 2 à 3 semaines qu'il fallait aux souris pour apprendre la tâche. Et puis, Samy El-Boustany et ses collègues ont réalisé que ce n'était pas la compréhension qui posait problème, mais le degré de motivation, dans ce cas-là, la soif.
On s'est rendu compte qu'après 1 ou 2 jours d'entraînement, très tôt en fait, dans ce processus d'apprentissage, typiquement elles allaient être très mauvaises tout au long de la tâche, mais vers la fin, pendant une centaine d'essais, soudainement elles allaient faire la tâche parfaitement bien, avec aucune erreur. Donc on s'est dit c'est étrange, parce que si elles ont compris la tâche, elles devraient le montrer plus régulièrement de jour en jour, mais en fait ce qui vient vraiment limiter cette expression-là de la compréhension de la tâche, c'est cette motivation qui de jour en jour, parce que la soif réaugmente, vient affecter leur comportement.
Et donc vous avez observé que chez ces souris, les performances obéissent bien à cette loi de Yerkes et Dobson, avec des mauvais résultats quand elles ont trop soif, ou quand elles n'ont pas assez soif, mais vous êtes allé plus loin, vous êtes allé regarder dans leur cerveau, au niveau neuronal, dans la région qui gère l'activité de leur vibrisse, alors est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se passe ?
Oui, alors absolument, c'était ça qui était un peu le point intéressant, on va dire, dans l'étude. C'était de maintenant, une fois qu'on avait reproduit ce phénomène bien connu par les psychologues, d'essayer de comprendre au niveau du cerveau qu'est-ce qui se passe. Donc pour ce faire, on a utilisé des techniques d'imagerie de pointe, qu'on appelle l'imagerie de photons, qui permettent d'aller voir directement dans la zone du cerveau l'activité des neurones pendant que ces souris effectuent les tâches. Donc en fait, le cerveau est parcellé de différentes régions qui sont sensibles à différentes informations sensorielles. Dans notre cas, évidemment, comme on était intéressé par les vibrisses, on a été voir dans la région qui répond aux stimulations de vibrisses. Et donc, en utilisant cette technique de microscopie, on peut voir les neurones sous fluorescence, et cette fluorescence fluctue en fonction de l'activité de ces neurones. Donc ça ressemble vraiment à une espèce de feu d'artifice de cellules qui émettent de la lumière. Et en faisant ça, on a pu décoder les réponses des vibrisses pendant que la souris passe à travers tous ces états de motivation.
Et est-ce que vous pouvez décrire la différence, peut-être qu'est-ce qu'on remarque entre les phases de surmotivation, de sous-motivation, le régime optimal ?
Alors tout à fait, dans le premier cas, c'est-à-dire quand la souris est trop motivée, ce qu'on a réalisé, c'est qu'en fait les neurones sont beaucoup trop actifs. Ils sont tellement actifs qu'ils en perdent leur sélectivité. C'est-à-dire qu'un neurone qui typiquement répondrait uniquement pour la moustache A va se mettre aussi à répondre pour la moustache B. Donc en réalité, ce que ça signifie, c'est que le système perd complètement sa résolution spatiale, que tous les neurones répondent à peu près pour n'importe quoi, ce qui fait que la souris n'a plus l'information sensorielle nécessaire pour faire la discrimination entre la moustache A et la moustache B.
Ça veut dire que quand on lui touche la moustache, elle va aller de toute façon lécher le tube parce qu'elle n'arrive plus à savoir quelle moustache on a touchée.
Exactement. En tout cas, c'est ce que nous, on voit du point de vue des circuits de neurones. C'est-à-dire que si on essaye de décoder directement de l'activité des neurones quelle moustache a été stimulée, on n'est pas capable de faire la tâche mieux que la souris. On voit que la résolution du système est perdue.
Mais ça ressemble pas un peu à un bug évolutif, parce qu'on s'imagine que quand une souris ou n'importe quel être est surmotivé, c'est peut-être dans des situations de vie ou de mort, et il faudrait justement avoir les meilleures performances possibles dans ces moments-là.
Alors, ouais, effectivement, ça peut paraître un peu paradoxal, mais d'une autre manière, on peut voir ça comme, au contraire, une capacité du système à augmenter sa sensibilité. C'est-à-dire que quand on est en danger de vie ou de mort, on va pas être intéressé à savoir si un stimulus potentiellement dangereux est un lapin ou un tigre, on va vouloir simplement savoir si on est capable de détecter quelque chose dans l'environnement. Donc le système augmente énormément sa capacité de détection, mais perd à ce prix-là sa capacité de discrimination. Alors peut-être que dans des situations de vie ou de mort, c'est plus intéressant d'être sensible à la détection plutôt qu'à la discrimination.
Et si la motivation baisse trop, qu'est-ce qui se passe ?
Alors si la motivation baisse trop, c'est un peu un cas, j'ai envie de dire, trivial. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'a plus aucun engagement dans la tâche. Donc l'attention est perdue. Ce qu'on voit du point de vue des neurones, c'est qu'ils retrouvent leur résolution, mais produisent plus assez de potentiel d'action. Et le potentiel d'action, c'est ce qui transmet l'information vers les systèmes moteurs et de décision. Et donc, globalement, il n'y a plus de signal et l'animal ne fait plus rien. Donc, dans ces tâches-là, il va simplement s'arrêter de faire la tâche.
Donc, si je suis bien et pour être au maximum de mes performances, il faut finalement être motivé, mais pas trop. C'est bien ça, Lucia ?
Vous avez parfaitement résumé la situation.
Ouais, alors, du coup, comment mettre ces belles conclusions en application dans la vie quotidienne ?
Alors, j'ai posé la question à Samy El-Boustany et en particulier, comment on peut intégrer ces connaissances dans nos techniques d'apprentissage et d'enseignement ?
Alors ça, c'est une question fascinante qu'on a essayé de se poser aussi dans le cadre de nos expériences, puisque, encore une fois, la motivation initiale, si j'ose dire, c'était de comprendre ce qui se passe au cerveau lors de l'apprentissage. Et donc, si on voit que la motivation vient complètement affecter l'expression d'une connaissance, ça veut dire qu'on doit essayer de la contrôler un peu mieux pour être capable de mieux comprendre si un animal ou un humain est capable ou a compris quelque chose. Donc, dans le cadre de l'éducation, en tout cas de nos apprentissages dans les tâches que nous utilisons, Nous essayons de la contrôler au mieux possible, donc en permettant à l'animal de s'habituer au contexte, en modulant la difficulté de la tâche pour essayer de conserver un niveau de motivation constant. Et donc ça, c'est des techniques qui potentiellement s'appliqueraient dans d'autres champs. Encore une fois, les sciences de l'éducation, par exemple.
Du coup, ça remet un peu en question. Enfin, nous, on a tendance chez les êtres humains à évaluer nos performances, en tout cas pour certaines performances, avec des examens qui mettent les gens en état de stress ou en tout cas de surmotivation. Est-ce que ça veut dire que du coup, on n'évalue pas leurs réelles connaissances dans cette situation-là?
Bah alors, ça dépend vraiment de ce qui est testé. C'est-à-dire que si la capacité de résister au stress est testée aussi, évidemment, c'est un enjeu important dans ces examens. Mais si on essaye de sonder un petit peu plus la compréhension d'une connaissance, encore une fois en mathématiques ou ailleurs, je pense que c'est parfois pas idéal. Et il y a un peu un cercle vicieux, puisqu'un étudiant qui est en péril scolaire va sentir d'autant plus de pression à réussir et donc potentiellement va être encore plus affecté par ses états de motivation. Donc réussir à diminuer cette pression-là permettrait aux étudiants de mieux exprimer, je pense, leur compréhension. Mais c'est quelque chose d'assez difficile en soi à mettre en place.
En préparant cette émission, une des pistes dont vous me parliez, c'était d'essayer de mettre en place un apprentissage adaptatif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là?
Oui, tout à fait. Donc, c'est quelque chose que nous faisons dans le cadre du laboratoire. C'est-à-dire, comme je vous le disais, la pression pour la souris dépend de son degré de soif. Donc, par exemple, on peut essayer d'adapter le degré de récompense ou la difficulté de la tâche pour permettre à la souris d'être dans des conditions simples lorsqu'elle est trop motivée et plus difficile lorsqu'elle est dans un état optimal. On peut imaginer des techniques similaires pour l'apprentissage, c'est-à-dire avoir des examens ou des formes d'apprentissage dans lesquelles la difficulté des exercices varie en fonction de la performance du sujet. Donc plus le sujet performe bien, plus l'exercice devient difficile pour conserver un état optimal d'engagement et de motivation pour obtenir des résultats efficaces.
Il faudrait en quelque sorte avoir un système qui est toujours conscient du niveau de l'élève pour lui proposer quelque chose qui est juste un peu au-dessus, mais pas trop pour qu'il soit optimal, qu'il ne perde pas ses moyens.
Exactement. Voilà, exactement. Et ça peut se faire simplement en calculant le score sur une fenêtre de 10 essais ou 10 exercices dans le passé et en adaptant la difficulté en fonction de ça.
J'imagine que c'est peut-être ce qu'essayent de faire en direct les enseignants, mais c'est pas toujours facile quand on a 25 élèves d'adapter tout à chacun, de faire du fine-tuning pour tout le monde. Par contre, avec des systèmes informatiques, avec des boucles rétroactives, on pourrait imaginer mettre ce genre de choses en place.
Alors absolument, je pense que c'est ce que je vous raconte, c'est des techniques qui sont assez intuitives et familières pour les enseignants. Et nous prétendons pas apporter quoi que ce soit de nouveau dans ce sens-là. Enfin, on essaie de voir comment nos expériences peuvent potentiellement inspirer certaines pistes à ce niveau. Mais c'est, je pense, effectivement des méthodes qui sont bonnes à systématiser. Une autre approche aussi serait d'essayer de dédramatiser le contexte de l'examen ou essayer de transformer une motivation qui est d'ordre crucial, c'est-à-dire un examen qui est absolument essentiel pour la réussite, en quelque chose qui est plus hédonique, c'est-à-dire qui provoque du plaisir, comme une forme de jeu, etc. Donc c'est, encore une fois, des approches que les enseignants utilisent énormément de nos jours, mais que nous voyons un peu dans le contexte expérimental.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un enfant, une personne qui perd ses moyens quand il ou elle est sous pression? Comment est-ce qu'on peut dédramatiser ou lui rendre confiance?
Encore une fois, si je me base sur nos résultats, ce que nous voyons chez les souris, en l'occurrence dans le cadre de ces tâches, c'est que de jour en jour, elles vont s'habituer au contexte expérimental. C'est-à-dire qu'elles vont s'habituer à perdre moins de poids en étant moins actives dans la cage pour contrôler en fait d'eux-mêmes le degré de motivation qu'elles vont devoir subir au niveau de la tâche. Chez un enfant, je sais pas, potentiellement être exposé au contexte d'examen régulièrement, à prendre le contrôle un peu sur cet aspect-là, permettrait peut-être d'ajuster le niveau de motivation automatiquement lorsqu'il est soumis à une vraie condition d'examen. Donc c'est ce qu'on fait finalement, on entraîne énormément les étudiants avec des tests en blanc, etc. Mais je pense que ça aide énormément.
Bon, alors essayer de dédramatiser, des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est apparemment important.
Oui, et c'est d'autant plus difficile quand on a une tâche qui nous tient à cœur, finalement.
Oui, ça fait monter la pression, le stress, et des fois, on renonce, ou alors on opte pour une stratégie d'évitement bien connue, j'ai nommé la procrastination.
Oui, eh bien, je vous propose de remettre ce chapitre à dans quelques minutes, donc ça veut dire que je suis en train de procrastiner. On se retrouve après Weekend et Daft Punk, ils chantent I Feel It Coming.
Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're
you're not the single type, so maybe this the perfect time. I'm just trying to get you high, fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love.
CQFD, votre émission de science et de santé sur RTS Première. On parle motivation et procrastination aujourd'hui avec un sujet qu'on vous proposait une première fois en janvier 2023. La motivation, on l'a évoqué il y a quelques minutes avec l'exemple d'une recherche sur les souris. Voici Lucia Silig, une deuxième étude publiée dans Nature Communications, étude publiée par une équipe française.
Oui, étude dont l'idée était de comprendre les mécanismes psychologiques et cérébraux qui amènent à la procrastination, donc à la décision de reporter une tâche au lendemain. Mathias Pessilion est directeur de recherche sur la motivation, le cerveau et le comportement à l'Institut du cerveau à Paris. Nous en dit plus.
Alors ce qu'on a fait, c'est une étude d'imagerie par IRM fonctionnelle. Et ce qu'on a regardé, c'est la façon dont le cerveau évaluait les efforts et les récompenses. Parce qu'en fait, quand on prend la décision de faire maintenant une corvée, par exemple, je sais pas, ranger sa chambre, faire la vaisselle, prendre rendez-vous avec son dentiste, ce sont des choses qu'on a tendance à procrastiner. Quand on prend la décision de le faire maintenant ou plus tard, eh ben, on évalue, enfin, le cerveau évalue assez automatiquement. À la fois, est-ce que ça va être pénible? Donc, la quantité d'efforts que ça va me demander. Et quel est le bénéfice que ça va me rapporter? Et il se trouve que ces deux systèmes sont sensibles au délai. Alors, si je prends le côté des efforts, si je me dis, il faut que je remplisse ma déclaration d'impôt maintenant, je vais trouver ça très pénible. Maintenant, si je contemple l'option différée dans ma tête, c'est-à-dire remplir la feuille d'impôt, je sais pas, la semaine prochaine, tout d'un coup, ça me paraît beaucoup moins pénible.
Oui, en effet.
Et c'est pareil pour les récompenses, mais dans l'autre sens, un salaire ou un gâteau au chocolat a plus de valeur tout de suite que demain.
Il y a une bonne raison à ça si on considère les aspects adaptatifs plutôt sous un angle théorique d'évolution, c'est parce qu'en fait le délai est dédié à l'incertitude. Donc on préfère avoir une récompense maintenant parce que au moins on est sûr de l'avoir, tandis qu'une récompense promise dans une semaine ou deux mois ou dix ans dans le futur, on n'est jamais complètement sûr qu'on va l'avoir. D'ailleurs il y a un dicton, en tout cas en France, qui dit un tien vaut mieux que deux tu l'auras, qui exprime bien cette idée en fait.
Sauf qu'apparemment, pour notre cerveau, le poids du délai, son influence est plus grande quand il s'agit d'efforts que de récompenses. Une vaisselle gagne beaucoup plus à être poussée à demain qu'un gâteau ne perd d'attrait s'il est mangé plus tard. Et oui, et les personnes les plus procrastinatrices sont celles chez qui le délai atténue le plus fortement l'effort.
Et est-ce qu'on sait, Lucia, ce qui fait qu'une personne va être plus procrastinatrice qu'une autre?
Malheureusement, non. Mais Mathias Pessilione souligne qu'il y a apparemment une forte composante génétique. Cela dit, il y a plein d'autres facteurs psychologiques et sociologiques, notamment qui nous échappent. Par contre, sur la base des mesures cérébrales qu'elle a faites, l'équipe de recherche a pu mettre au point un modèle qui a permis de prédire qui, parmi ces cobayes, allait avoir le plus tendance à la procrastination et notamment combien de temps ces personnes allaient mettre à renvoyer un questionnaire bien laborieux qu'elles devaient remplir et retourner à l'institut après leur passage.
Bon, je me dis, c'est bien joli de savoir qu'on a tendance à la procrastination, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour lutter contre?
Oui, il y a des choses. Mathias Pessilione conseille notamment de fragmenter les tâches, de les faire petit bout par petit bout, histoire d'amorcer le processus plutôt que de le repousser. Et puis, il met en garde contre les stratégies d'évitement.
Il y a des mauvaises habitudes qu'ont les procrastinateurs. Quand ils doivent faire quelque chose d'important et pénible, ils vont se trouver autre chose qui est aussi une corvée qu'ils doivent effectuer mais qui est un petit peu moins pénible. Et ça fonctionne comme distracteur en fait. En quelque sorte, on se donne bonne conscience avec une petite tâche à accomplir qui n'est pas trop pénible et puis finalement on ne fait jamais ce qui est important. Et donc il faut aussi éviter ce genre de distracteur. Et puis généralement, évidemment, tout ce qui distrait l'attention, les téléphones, Internet, va favoriser la procrastination parce que ça va dériver l'attention sur des objets plus faciles.
Après, Mathias Pessilione souligne que ça n'est peut-être pas pour rien que notre cerveau est câblé comme ça.
Au moins dans le monde moderne, dans le monde contemporain, ça paraît pas rationnel de procrastiner parce qu'on peut citer plein d'exemples et puis les gens le regrettent d'ailleurs. Ils disent « j'aurais pas dû attendre si longtemps avant de, je sais pas, faire cet examen médical par exemple. Maintenant il est trop tard pour engager le traitement, etc. » Mais il y a des bonnes raisons aussi pour lesquelles on procrastine et peut-être que dans le monde plus naturel dans lequel le cerveau a évolué, peut-être qu'il était adapté de procrastiner, au moins dans certains cas, pour éviter de s'épuiser, de faire des efforts inutiles pour la récompense qui est bien incertaine. Donc, il y a probablement un optimum de procrastination. Il ne s'agit pas non plus de travailler tout le temps à accomplir toutes les tâches possibles. De toute façon, ce ne serait pas humainement possible.
J'y viens.
Je commence demain. Ah ouais, il me semblait bien. Jean-Jacques Goldman, hein, il faudrait que je devienne plus sage, que je sois plus raisonnable à mon âge, je sais bien. Je commence demain. Voilà, une chanson qu'il avait...
Maîtriser vos classiques.
Exactement, qu'il avait faite. Et Sandro Lucci aussi qui a réalisé cette séquence. Il connaît bien Jean-Jacques Goldman et qui avait évoqué donc la procrastination dans cette chanson, peut-être un petit peu moins connue de lui. La recherche de la motivation et de la procrastination optimale. Quelque chose qui n'est humainement pas toujours facile à gérer. C'est la conclusion donc de cette séquence CQFD proposée par Lucia Silig. Je me réjouis de vous retrouver ce dimanche à 15h, entre 15h et 16h on parlera d'alimentation et puis lundi matin dès 10h avec notamment cette question: pourquoi les fleurs sont belles?
CQFD, Stéphane Gabiou.
Avec à la réalisation toute cette semaine David Golan, Annette Kléber, notre attachée de production, Laure Pagella et notre éditrice numérique, et Willy Deselu a choisi la musique. D'ailleurs, à propos d'édition numérique, vous pouvez évidemment retrouver tous nos sujets si vous passez par Play RTS, ou les sujets d'ailleurs de toutes les émissions que nous vous proposons à la télé, sur le web et à la radio évidemment.
Les émissions de la journée pour accompagner vos nuits. RTS Première, il est 5h.